Alors, on va méditer aujourd'hui sur un thème qui va être aussi commun avec les haltes spirituelles organisées pour les femmes. C'est intitulé comme ça, c'est le mariage école d'amour, ou au fond, comment un peu réussir son couple. Donc, méditer sur la vie de couple. Et à travers la vie de couple, c'est aussi une méditation par rapport aux relations que nous avons en général, et qui s'éclaire de façon plus précise dans les liens matrimoniaux. Alors ce matin, je vais méditer à partir de l'échange des consentements. D'abord, je m'excuse s'il y en a qui sont célibataires, en dehors de moi, je ne sais pas s'il y en a des célibataires ou non, bah, tous vous êtes mariés, bon ben c'est bon, donc vous êtes concernés. Je suis le seul célibataire. Donc, d'abord ce matin, on va voir la question de l'échange des consentements. Alors, je médite sur cette question de l'échange des consentements lors des week-ends fiancés. Mais là, on va le faire dans une optique différente, de refaire mémoire du don de Dieu et du sacrement que vous vous êtes donné avec votre épouse le jour de votre mariage, et de cette formule qu'une des deux que vous avez prononcée, d'une certaine manière, d'en faire notre miel, quoi, d'en découvrir la saveur. Et cet après-midi, il y aura une méditation par le père Eric, plus sur le dialogue dans le couple, et cette invitation à aussi comment un peu dépasser les différentes difficultés, ou aller de l'avant, grandir dans cet amour à deux. Alors tout d'abord, ce matin, cette question d'échange des consentements. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte de l'échange des consentements? C'est que il est fondateur dans la vie matrimoniale. Il est fondateur. L'amour a besoin de paroles. L'amour a besoin de paroles, a besoin d'être dit. Et dans le don de la parole s'enracine toute chose. Comme aussi dans le don de la parole que de Dieu, s'enracine toute chose, c'est-à-dire s'enracine tout ce qui est créé. Par lui, tout a été créé. Alors, c'est important de se redire ça, que notre vie, elle se fait et elle se construit à travers les paroles que nous avons données. Dans une civilisation qui n'est pas tellement de la parole, ou c'est plutôt l'écrit, il faut que ce soit écrit pour que ce soit sûr, ou de l'image. Mais le fait de donner sa parole, au fond, a perdu pas mal d'importance. Et c'est bien de pouvoir revenir à cet échange des consentements, parce que c'est l'acte dans lequel s'enracine, au fond, votre vie matrimoniale. Dans consentement, il y a le mot « science ». Il y a le mot « science », c'est-à-dire on consent à l'autre, on se donne son consentement, c'est-à-dire l'intime de sa volonté à l'autre, parce que l'on connaît l'autre. Et dans le cadre de la préparation aux fiancés, pour les fiancés, j'insiste beaucoup sur cette connaissance mutuelle de l'autre. Mais aussi, après plusieurs années de vie matrimoniale, on peut dire la connaissance de l'autre est une source d'amour. Et l'amour me permet de connaître. Vous voyez, donc comme un aller-retour entre une vraie connaissance de l'autre et un amour désintéressé de l'autre. Je choisis l'autre. Je mets ça, je fais le choix délibéré d'aimer l'autre gratuitement. C'est ça le consentement. C'est l'intime de la volonté qui est donnée. Alors dans la première formule, et c'est chaque formule qui a... avant de passer aux formules, juste un point. C'est pour ça que le mariage, s'il est un mariage d'amour, est aussi un mariage de raison. Et on a trop voulu mettre de côté l'intelligence dans l'amour. Or, il est dans l'acte d'aimer, l'intelligence, puisqu'il y a une vraie connaissance de l'autre. Donc il y a des raisons pour lesquelles j'ai choisi telle personne, ça aurait pu être telle autre. Encore une fois, il ne faut pas dire... Il y a un peu ce truc, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, ça ne veut rien dire. C'est pas qu'on est fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre. Ça se construit, on se fait l'un à l'autre. On est fait l'un pour l'autre, ça ne veut rien dire. Alors, il peut y avoir un accord, évidemment, qu'à la base, il y a une attirance, il y a une émotion, il y a un émerveillement, il y a tout ce que vous voulez. Mais vous savez bien aussi, et je le sais aussi pour ma vie communautaire, on se fait l'un à l'autre. Mais ça, c'est le choix délibéré d'une volonté qui choisit d'aimer. Donc cette connaissance, elle va au fond enraciner l'amour. Elle va donner à l'amour, à la volonté, l'intelligence qui connaît, donne à la volonté qui aime, hein, une force plus grande. Et je dis ça parce qu'on est beaucoup dans une certaine, comment on peut dire, dérive émotionnelle, où tout est basé sur les sentiments, mais peu enraciné dans l'intelligence. Et donc assez fragile, parce qu'on sait bien que nos sentiments sont assez fragiles. Un jour, on se lève du pied gauche, Renva, l'autre jour, on est complètement enthousiaste, le troisième, où on ne sent pas grand-chose, l'autre, le cinquième, on sent même de l'adversité. On voit bien qu'à l'intérieur de nous, des sentiments bougent. Et donc, c'est important que l'amour soit enraciné plus profond que la superficie des vagues qui peuvent être agitées par le vent, et donc il peut y avoir une sorte de tempête, mais au fond, on dit bien dans la mer, les courants marins, c'est des courants qui vont toujours dans le même sens, c'est quelque chose de très profond. Alors ça peut être bien, je dis, de dire, mais au fond, quelles sont les raisons qui fait que je... pour aimer mon épouse, celle que j'ai choisie, à qui j'ai donné l'intime de ma volonté. Et faire mémoire de ça, je trouve c'est beau. De même, quelles sont les raisons qui m'ont poussé, moi, comme religieux, comme prêtre, à embrasser cette vocation. Faire mémoire, dans un sens biblique, c'est rendre présent une grâce du passé. La mémoire pour l'homme de la Bible, c'est la faculté du présent. À tel point que quand on fait mémoire de la passion, la mort et la résurrection du Seigneur dans l'Eucharistie, il y a sa présence réelle au milieu de nous. Alors, ça c'est bien de se dire, je me rappelle comme ça une personne avec qui je parlais me dit, 15 ans après, je peux dire que c'est les mêmes raisons qui me poussent à aimer mon mari que celles que j'avais au jour même de mon mariage. Alors c'est beau de dire ça, de se redire des raisons. Alors, méditez un peu sur chaque formule, et parce qu'il y a plusieurs possibilités, alors je ne sais pas laquelle vous avez choisi le jour de votre mariage, mais chaque formule dit quelque chose au fond de la beauté de l'amour. Fleur, donc, veux-tu être ma femme ? L'amour s'enracine dans la volonté, pas dans la sensibilité. La sensibilité aide la volonté à agir et à aimer, ou parfois ne l'aide pas. Mais est-ce que tu veux ? Tu veux ou tu ne veux pas ? Et quand des couples sont en difficulté et me demandent un peu de les accompagner, je leur pose toujours la question, est-ce que vous voulez que ça marche ? Parce que c'est ça la difficulté, quand on ne veut plus, c'est-à-dire quand on n'aime plus, eh bien, évidemment, on est face à une épreuve. Donc, est-ce que tu le veux ? Et cette volonté, elle se construit jour après jour. Cette volonté à bien comprendre, non pas la force du poignet, parce que ça, ce ne serait pas la volonté. La volonté, c'est une détermination dans l'amour. Autre chose est de se raidir et à la force du poignet, coûte, je veux que ça marche, c'est pas ça. C'est l'amour qui est déterminé et qui est finalisé. C'est ça la volonté, c'est cette capacité de choisir profondément, hein, une option, une personne, une carrière, une... Et bien souvent, la difficulté, elle est là parce qu'on n'a pas vraiment choisi. On n'est pas assez, on peut dire, finalisé. Et donc, on papillonne. Dans le sacrement du mariage, on fait le choix l'un de l'autre. Et il n'y a rien de plus important. Et dans ce choix, naît les enfants hein, que le Seigneur vous donne. C'est dans ce choix de l'un de l'autre, dans ce veux-tu. Alors c'est très beau de voir ça. Hein. C'est dans ce lien matrimonial, et c'est pour ça que c'est tellement attaqué, parce que le lien matrimonial est ce sur quoi s'appuie la famille, les enfants. Dans ce lien matrimonial grandissent les enfants. Donc il n'y a rien de plus important que vous deux. Et de vous occuper de vous deux. Et de prendre du temps pour ça. Hein, peut-être certains sont dans les équipes Notre-Dame, hein, qui, avec le fameux devoir de s'asseoir, de dire, ben, où est-ce qu'on en est nous deux? Alors, on ne va pas parler des enfants, on ne va pas parler de la maison, on ne va pas parler du boulot. On dit, nous deux en tant que nous deux, c'est pas facile. Parce que bon, ben, on est assez... surtout pour l'homme, qui est assez pudique, qui est assez... qui a parfois même du mal à mettre des mots sur ses sentiments, sur ses émotions, et qui ne voit pas forcément l'intérêt d'un tel exercice. Il dit, ben oui, il n'y a pas de problème, je ne vois pas où est la question. Tu te poses 15 000 questions, mais vraiment, c'est comme ça, puis on avance. Je veux dire, oui, mais où est-ce que tu vois notre relation, etc. La femme, elle est très en attente de ça, évidemment. Hein, et alors, dis-moi, toi, tes sentiments, et toi, ceci, et... Mais oui, bah... Moi, j'ai pas de sentiments, mais je... Écoute, moi, je bosse, je veux que ça marche, et puis bon, c'est parti, je veux dire, on va pas prendre la tête, hein. Bon, toute ressemblance avec des cas ayant existé ou existant n'est que fortuite. Vous voyez, donc, mais c'est important, parce que, déjà, pour l'épouse, c'est important d'avoir la parole de l'homme. Beaucoup besoin d'une parole. Mais en même temps, c'est important aussi pour l'homme de faire ce travail sur lui-même. Parce qu'il n'est pas forcément habitué, il n'en voit pas forcément l'utilité. Mais quand il comprend l'enjeu, et c'est vrai, une vraie croissance pour lui. Parce qu'aussi, il l'appliquera, par exemple, dans ses relations professionnelles. Il l'appliquera dans ses relations professionnelles. Donc c'est important de dire où est-ce que nous en sommes de ce veux-tu, est-ce que tu veux? Où est-ce que nous en sommes de ce veux-tu? Alors ensuite il y a une autre chose, donc je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Alors c'est assez intéressant de méditer là-dessus. C'est je te reçois, et ça c'est important. Au bout de quelques années de vie matrimoniale, on dit qu'est-ce qu'on a à recevoir de l'autre? On a à recevoir de l'autre beaucoup de choses. On est d'abord dans une attitude d'accueil, à recevoir sa sensibilité, à recevoir sa manière de comprendre, à recevoir sa famille, son histoire, à recevoir son corps, à recevoir ses blessures. Donc, c'est dans une logique de don, d'accueil et de don. Et je me donne à toi. Et je me donne à toi, pareil. Je donne mon histoire, je donne mon affectivité, je donne ma force, je donne mes faiblesses, je donne ma famille, je t'accueille et je donne. Donc, dans cette logique de don, hein, qui est faite du don et de l'accueil du don, c'est ça, au fond, cette respiration qui constitue le centre de l'amour. Et d'une certaine manière, arriver au bout de quelques années de vie matrimoniale, mais ce n'est pas si facile, de ne rien avoir à prouver à l'autre. Parce qu'on est tellement sûr de son amour. Et donc une certaine simplification dans les relations. Et aussi montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, et la dire. Ça, c'est difficile pour nous, hommes, d'avoir cette attitude-là. Hein, mais c'est beau, parce que c'est un signe de grande maturité intérieure et spirituelle. Parce que ce n'est pas sans rapport avec l'amour de Dieu. Face à cet amour de Dieu, dans la prière, je monte mes blessures. Mes incapacités, mes blocages, mes colères, les trucs qui me font péter les plombs. À tous, hein. Mais mes schémas, je sais pas, il y a des schémas. C'est comme ça, c'est très bien, ça nous construit aussi. Mais de le dire, hein, je donne aussi, je te donne, je t'accueille, ben accueille-moi avec ce que je suis. Cette relation donc de don et d'accueil, elle est aussi marquée par le manque. Alors ça aussi, il faut en prendre conscience. Et il y a l'accueil aussi d'une certaine souffrance. J'allais dire dans toute relation. Jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, c'est-à-dire dans la vision béatifique, nos relations seront marquées par le manque. C'est-à-dire renoncer à une relation comblante. La communion n'est pas la fusion. C'est aussi accueillir. Est-ce que tu accueilles la souffrance? La souffrance à travers ton épouse, à travers les enfants, à travers la situation professionnelle, c'est aussi ça l'accueil. Toutes nos relations sont marquées par un. On voudrait communier plus l'un à l'autre. Et en même temps, on se rend compte que il y aura toujours une distance, jusqu'à ce qu'on soit tous en Dieu. Mais sur cette terre, il y aura toujours une distance, parfois une certaine incompréhension. Mais c'est important de dire, c'est normal. Ça déculpabilise aussi. Ça fait partie d'une réalité normale. Même si on tend chaque fois plus à grandir dans l'amour, il faut faire le deuil d'une certaine perfection, hein, et d'une certaine plénitude, un côté comblant. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien on va être déçu. On va être déçu parce qu'on se dit, bon, moi je m'attendais à quelque chose de plus, et moi je m'attendais à un truc extraordinaire, je m'attendais à que mon cœur il explose, je m'attendais que. Et que l'autre aussi, et que. Eh bien non, ben. On a du mal à s'aimer l'un à l'autre. Et c'est normal. C'est archi normal. Donc, prendre conscience aussi que le mariage, c'est aussi l'union de deux pauvres. Il y a une grande pauvreté dans le lien. Et comme j'arrive pas forcément à t'aimer, et j'arrive pas à m'aimer, ou à m'aimer mes enfants, ou à. Hein, c'est une école, c'est un apprentissage. Ça s'apprend. C'est pas inné, sinon ça se saurait. Mettons-nous à l'école. Ensuite, quand il est dit « à t'aimer fidèlement ». À t'aimer fidèlement, alors qu'est-ce que ça veut dire « à t'aimer fidèlement » ? Évidemment, fidèlement, ça veut dire pas aller voir ailleurs, rencontrer d'autres consolations affectives ailleurs. Parce que remarquez bien, hein, la question de l'adultère, ou en esprit même, hein, Jésus en parle très clairement, c'est toujours le signe d'un manque dans la relation. La nature ayant horreur du vide. Donc on veut combler quelque chose que la relation est en droit de me donner. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que la relation matrimoniale peut donner et font partie du lien conjugal. Donc la fidélité, c'est non seulement ne pas aller voir ailleurs, mais c'est aussi grandir dans l'amour. C'est-à-dire que quand on comprend la fidélité de Dieu pour nous, par exemple, c'est assez intéressant ça, de voir la fidélité de Dieu pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette fidélité de son amour pour nous, déjà dans la création, ensuite par les prophètes, ensuite dans son Fils. Vous voyez, il y a comme... Ensuite, dans l'Église, il y a comme une la fidélité, on la voit bien souvent, ben, j'y suis, j'y reste, et puis bon, je vais pas bouger de là, et un peu statique. C'est déjà pas mal. Mais la fidélité, elle est aussi dynamique. Elle est dynamis, c'est-à-dire en grec, une force. Elle est une force, elle est un mouvement. Donc t'aimer fidèlement, ça veut dire que le jour de notre mariage, c'était le point zéro. Et ensuite, on grandit. C'est pas parce que certains ont la conception, le jour du mariage, on est au maximum, ensuite ça se casse la gueule jusque dans la vie éternelle, grosso modo. Non, c'est pas ça. C'est, je veux dire, le jour de ma, je dis aux fiancés, le jour de votre mariage, c'est le moment où vous vous aimez le moins. Où l'amour, il est à l'état embryonnaire. Et ensuite, il grandit. Alors ça donne toute une autre perspective, c'est ça, fidèlement. Comme cet amour de Dieu qui s'est manifesté dans la création, dans la première alliance, et enfin dans son Fils. L'amour de Dieu qui se manifeste dans cette dimension-là. Alors c'est ça, t'aimer fidèlement. Est-ce qu'il y a plus d'amour qu'il y a un an, deux ans, parfois dans la difficulté? Mais est-ce qu'il y a plus d'amour? Où est-ce qu'on en est? C'est difficile à mesurer, mais est-ce que dans la qualité de la relation, la fluidité du contact, de la compréhension, est-ce qu'on a grandi? Donc, ça veut dire aussi prendre les éléments pour grandir. Si vous êtes ici, ça fait partie des éléments pour grandir dans l'amour. C'est pas le seul, mais on a besoin d'être aidé. Chacun, on a, et ça c'est une attitude d'humilité, de dire j'ai besoin d'être aidé pour grandir dans l'amour, parce que c'est pas spontané. Arrêtons de croire à cette spontanéité qui ferait que tout viendrait tout seul, serait génial, ce serait... C'est pas réel, c'est pas réaliste. La réalité c'est qu'on est en devenir. Ensuite, l'autre point, c'est pour nous aimer, dans la deuxième formule, j'ai marqué pour nous aimer fidèlement, en noir, dans le bonheur ou dans les épreuves, et nous soutenir. Nous soutenir. Dans les épreuves, alors, il peut y avoir des épreuves, et de fait, parfois, il y en a, et des épreuves dans la vie matrimoniale, familiale, professionnelle, des épreuves de santé, des épreuves dans la relation. Mais l'épreuve, dans la Bible, elle est conçue comme ce passage par lequel on manifeste de façon visible ce qui est invisible. L'épreuve a cette vertu de manifester à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon générale, elle révèle notre cœur. C'est comme un révélateur. Une épreuve de santé, par exemple, une épreuve professionnelle, pourquoi le chômage ou des difficultés professionnelles quelconques, par rapport à la vie conjugale, sont un bon révélateur de comment va le lien conjugal. Parce que, d'une certaine manière, ce sera rendu visible à travers l'épreuve quelque chose qui est invisible. Bon, est-ce qu'on en est de notre amour? Est-ce qu'on est capable de se soutenir, de se porter? de porter ensemble une souffrance. Si elle vient, on ne va pas la chercher, mais si elle vient, et parfois, on sait bien que... Est-ce qu'on est capable de ça? Est-ce que ça fortifie notre amour? Ou est-ce que l'épreuve, au fond, va être révélatrice qu'on est assez éloigné l'un de l'autre? Il y a une grande distance entre nous, alors l'épreuve peut faire qu'on se rapproche, ça c'est vrai. Mais aussi, l'épreuve peut faire que tout éclate. Mais ce n'est pas l'épreuve en tant que telle. Je veux dire, ce serait que le prétexte, c'est parce qu'elle manifeste à l'extérieur quelque chose que l'on porte à l'intérieur. Et dans notre lien avec Dieu, c'est exactement pareil. L'épreuve manifeste à l'extérieur notre lien avec Dieu. Est-ce qu'on, dans des difficultés de santé, dans des difficultés de familiales, au sens large, de relations et qui nous font souffrir. Est-ce que notre réaction première est de nous tourner vers le Seigneur avec confiance? Ou est-ce que, au contraire, on se durcit et on se braque? Alors ça, c'est... Il y a plusieurs fois dans la vie des oui à dire, à nouveau, mais profondément. Oui à ce que je n'ai pas forcément choisi. Oui à ce problème de santé. Oui à cette difficulté de relation, tout en essayant de d'aller de l'avant, bien sûr. Oui à cette difficulté professionnelle, que sais-je. Dire oui aussi, il y a un consentement à ce que je n'ai pas choisi. On a tous des projets dans notre tête, et c'est vrai que c'est assez légitime. On projette sa vie matrimoniale, on projette sa vie sacerdotale, sa vie professionnelle, etc. C'est pas mal. Mais parfois, et assez souvent... Le projet ne correspond pas à la réalité. Le projet ne correspond pas à la réalité. Alors, le Seigneur lui dit, est-ce que tu dis oui encore à cette réalité? Que tu n'as pas choisi, mais que tu peux choisir en lui disant oui. Alors voilà, dans le sens de l'épreuve, et nous soutenir, nous porter l'un l'autre. Et c'est vrai que face à une mentalité individualiste à laquelle on assiste de plus en plus, hein, se sauve qui peut, tu sauves ta peau, etc. Et avoir un langage comme ça, c'est tout à fait à contre-courant. Ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce que tu as une difficulté quelconque que je ne vais pas pouvoir, je vais partir. Non, au contraire, on va se soutenir et on va s'enraciner davantage dans notre oui. On va s'enraciner davantage dans la grâce du sacrement. C'est un appel à une plus de profondeur. L'épreuve est un appel à plus de profondeur, mais aussi peut tout faire exploser. C'est comme un vérificateur du lien. Voilà, donc un peu sur cette question d'échange des consentements qui est très beau et sur lequel il faut revenir et pourquoi pas refaire à des moments particuliers, évidemment, mais de renouveler les promesses matrimoniales. Refaire mémoire, redire oui avec tout ce que je connais maintenant de ta vie, tout ce que tu... Ben, je te rechoisis. qu'est-ce qui met, alors on va sortir de ça, mais qu'est-ce qui met en danger le lien conjugal? Il y a fondamentalement trois choses que l'on appelle les trois formes d'orgueil. L'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. C'est ce qu'on appelle les trois concupiscences, qui sont les trois pièges dans lesquels on peut tomber et qui mettent en danger la relation, et a fortiori la relation matrimoniale. On peut dire toute relation. L'orgueil des richesses. De voir comment, comme on l'a vu la dernière fois, qu'on a médité sur la question de l'argent, etc., et de la place de l'argent par rapport aux chrétiens, etc. Bon, de voir, alors que l'argent a été fait pour la relation, l'argent ou les richesses de façon générale, hein, matérielle, hein, on entend bien, hein, l'aspect matériel, qui est quand même très important dans la vie matrimoniale et familiale. C'est quand même très important. Et ça, il faut bien prendre conscience que... certainement beaucoup plus conscience que moi, que ces questions-là sont des vraies questions. Dans la question de la famille au plan de façon élargie, je ne sais pas, vous êtes à certains des âges où peut-être il parlait d'héritage des parents, etc., où déjà les partages sont faits, mais tout ça, est-ce que ça sert la communion ou ça la dessert? Donc ce n'est pas l'argent en tant que tel, parce que l'argent il est neutre, il est bon si l'homme est bon, et il est mauvais si l'homme est mauvais. Mais il y a une difficulté par rapport justement aux choses matérielles, c'est que l'on met l'être, on met l'avoir avant l'être, on met le matériel avant la communion. Et ça, c'est une vraie difficulté dans la relation matrimoniale. Et ça fait partie du dialogue matrimonial de dire où est-ce qu'on en est des questions matérielles. Le fait d'être trop dépensier, le fait d'être radin, le fait d'être d'avoir fait telle option, telle autre, le fait comment ces choses, ou le choix d'une maison, ou ce que sais-je, ou le choix de l'organisation des vacances, ça fait partie aussi des choses très matérielles que l'on doit, qui doivent être organisées. Où est-ce qu'on en est de ça? Est-ce qu'on voit... Parce qu'on a un rapport à l'argent très différent l'un de l'autre. C'est assez intéressant par rapport à notre éducation. Il y en a certains pour qui ce n'est pas vraiment une difficulté, parce que peut-être ils n'ont pas eu trop de difficultés. Il y en a certains pour qui c'est une source d'angoisse. Il y en a certains pour qui ils sentent qu'il y a un vrai danger de course en avant, de toujours plus, et de rajouter toujours un zéro au compte bancaire, parce qu'il n'y a jamais assez. Donc, une des difficultés dans lesquelles peut tomber la relation matrimoniale, c'est cette question du rapport aux richesses, qui peut être un obstacle à l'amour, si ce n'est pas vécu dans la finalité. La richesse est un moyen et non une fin. Et la difficulté de nos sociétés, c'est d'avoir mis le moyen à la place de la fin. Tous, on a besoin, hein, d'éléments matériels, ne serait-ce que, ben, vous voyez, dans notre communauté, on a cette salle, ça demande tout un entretien, etc. C'est pas la question de fond. Et quand Jésus dit on peut pas adorer Dieu et l'argent, ça veut dire quoi? On n'a pas à mettre, à demander à l'avoir de nous donner l'être. Si parfois dans les familles, et ça peut arriver, on baisse de niveau de vie, par exemple, c'est quand même assez fort, ça, hein, le fait de baisser de niveau de vie. Et ça peut tout à fait arriver, tout à fait être... pour les raisons X ou Y, bon. C'est une épreuve. Est-ce qu'on l'accueille? Et est-ce que... Bah, ça fait qu'on va devoir se gêner un peu plus, ça fait qu'on va devoir... Ça vérifie la qualité de notre amour. Ensuite, la question de l'orgueil de la chair, ou les trois concupiscences ou les trois formes d'orgueil, l'orgueil de la chair. Toute la question, entre autres, de la sexualité. Bon, on en a parlé déjà au mois de janvier, donc je ne vais pas revenir. Mais il n'y a pas de dialogue matrimonial sans évoquer la question de la sexualité, qui en même temps, qui est bonne, conçue bonne par Dieu, mais qui peut être vécue douloureusement par l'un ou par l'autre, qui sert à la communion, qui exprime la communion, hein, le don de la parole s'exprime dans le don du corps, et c'est la logique de l'Eucharistie, d'abord la liturgie de la parole, ensuite la liturgie du corps, hein, du corps du Christ qui nous est donné. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est un instrument de domination. De l'un ou de l'autre. De l'homme ou de la femme. La troisième chose, c'est l'orgueil de l'esprit. Qu'on appelle en général l'orgueil. L'orgueil qui consiste, au fond, à une certaine domination. Avoir toujours raison. Avoir le dernier mot. À faire les choses seules. À voir manipuler. Ça, c'est en nous, hein, en chacun de nous, à manipuler. À vouloir faire que l'autre aille là où je veux qu'il aille. Donc dans cet orgueil de l'esprit, alors que l'esprit est fait pour connaître et donc aider la volonté à agir et à aimer le bien qu'elle connaît, mais l'esprit peut être aussi au service de la domination et de la division. Donc vous voyez bien, mais ces trois formes, ce qu'on appelle traditionnellement les trois concupiscences, autour de... desquelles tournent toutes les difficultés. C'est ramener de près ou de loin à ces trois points-là. Il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, toutes les formes de péché. Alors, c'est intéressant de savoir ça, parce qu'on se dit, ben, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Mais c'est aussi ce que le Christ a affronté, vous avez fait le lien vous-même avec les tentations du Christ au désert, les trois formes de tentation, hein, avec le pain, dit à ces pierres de se transformer en pain, donc la chair, la nourriture, le plaisir. Hein, et le Christ répond par la parole, hein, de Dieu. Non pas seulement de pain vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, les richesses, mets-toi à genoux devant moi et je te montrerai tous ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, ils seront à toi. Et le Christ aussi répond par la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et puis, quand il est, si tu m'adores, jette-toi du haut du temple, il lui montre en esprit, jette-toi du haut du temple et les anges te porteront. Et Jésus répond avec la parole, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc c'est cet orgueil, le temple, c'est-à-dire le lieu, je me mets au sommet, c'est-à-dire au-dessus du lieu où il y a un culte avec Dieu, c'est-à-dire au-dessus de Dieu au fond, hein, et je, dans une relation de toute puissance. Et c'est les trois formes de toute puissance, et c'est en nous. Et c'est le fruit d'un combat spirituel. Alors prenons conscience que ces trois obstacles à l'amour, sont trois obstacles aussi auxquels on a, pour lesquels on a à prendre des armes de lumière. C'est pas seulement avec des armes humaines, mais c'est avec aussi des armes de lumière. Et qu'est-ce que j'entends par des armes de lumière? C'est-à-dire des armes de la prière, les sacrements, le sacrement de réconciliation en particulier. Évidemment, c'est aussi, vous avez fait le rapport avec les trois vœux religieux, qui sont trois conseils évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance, mais qui sont trois conseils évangéliques, c'est-à-dire pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile, pas seulement pour les religieux. Eux, ils en font une forme stable de vie, mais il y a une pauvreté, une chasteté et une obéissance matrimoniale. Pour tout baptiser. Alors voilà, donc de prendre conscience en même temps que nous sommes appelés, vous êtes appelés par le sacrement du mariage à quelque chose de très grand, et en même temps cette pauvreté dans laquelle on est, et dans notre difficulté parfois à rentrer en relation, à persévérer dans cette relation, à nous comprendre les uns les autres, mais aussi cette confiance que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Par la grâce du sacrement, il y a la présence assurée du Seigneur. Même au-delà des épreuves, même après plusieurs, au contraire, après plusieurs années de vie matrimoniale, comme il est bon de refaire mémoire de cette présence du Seigneur, le Seigneur ne vous a pas laissé seul. Il est très beau de voir que dans nos vies, des personnes sont venues, des personnes de chair et d'os sont venues à notre côté, à notre rencontre, des amis, peut-être un prêtre, un religieux, une religieuse, que sais-je, et qui nous ont soutenus, et qui nous ont profondément portés, et que nous relisons dans une dimension de foi comme vraiment la présence de Dieu. La présence de Dieu dans l'Eucharistie, la présence de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, qui sont les vrais instruments pour vivre à fond de notre vocation.